France Culture.
À voix nue, Géraldine Mosna-Savoie, cette semaine avec...
André Comte-Sponville, philosophe.
Cinquième et dernier épisode, Apprendre à mourir. Bonsoir André Comte-Sponville.
Bonsoir.
Septembre 2025, c'est le moment où nous enregistrons ces entretiens. Vous avez 73 ans, André Comte-Sponville. Vous parlez de la philosophie comme d'un deuil anticipé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez appris à mourir ?
On verra bien. On verra bien, et j'y attache pas beaucoup d'importance. Vous savez, Montaigne, sur ce sujet, est indépassable dans les essais. Il écrit joliment « Si tu ne sais mourir, ne t'en chauffe, ne t'en fais pas. Nature t'en informera sur le champ pleinement et suffisamment. » Autrement dit, il n'y a pas à apprendre à mourir. Je vous rassure, vous y arriverez très bien. Parfois dans la souffrance, parfois dans l'angoisse. Dans la souffrance, j'espère que nos médecins nous aideront, vous et moi, à ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Pour ce qui est de l'angoisse, il se peut que nos médecins nous aident aussi, mais on verra bien. L'important dans la vie, ça n'est pas la façon de mourir, c'est la façon de vivre. Mais comme chacun sait bien que toute vie est mortelle, pour vivre bien, il faut accepter la mort. Et c'est bien plus important d'accepter la mort de son vivant, c'est juste spécialement quand on est jeune, que sur son lit d'agonie. Est-ce que je mourrai sereinement? Est-ce que je mourrai dans l'angoisse? Écoutez, on verra bien. D'abord, tout dépend quel âge j'aurai, est-ce que je souffrirai ou pas physiquement. Tout ça est tout à fait imprévisible et pas très important. Ce qui m'affligerait, ça serait que les 73 ans que j'ai déjà vécu aient été tout entiers assombris par l'idée que je vais mourir. Alors que je crois au contraire que savoir qu'on va mourir, c'est pas une raison pour moins aimer la vie. C'est une raison pour l'aimer encore plus, parce que justement, on sait que ça ne durera pas toujours. Vous savez, c'est ce qu'écrivait quelque part André Gide, c'est une formule que j'ai souvent citée, je crois que c'est dans les Nourritures terrestres. André Gide, grand lecteur de Montaigne, par ailleurs, écrit « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. » Je crois que c'est la première phrase, j'ai lu ça, je dois avoir 16 ou 17 ans, que j'ai admirée absolument. Pour sa beauté, notamment l'apparente maladresse de la répétition du pas assez, qui en vérité n'est qu'une beauté supplémentaire. Ça veut dire quoi? Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. Ça veut dire que si nous pensions plus souvent que nous allons mourir, nous vivrions mieux, plus intensément, parce que chaque instant nous paraîtrait d'autant plus précieux qu'il se détacherait, comme disait là encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort.
Alors comment expliquez-vous, André Comte-Sponville, qu'on se sente angoissé quand on pense à la mort? Si, comme le dit Gide, penser à la mort fait que l'on jouit mieux de notre vie, comment ça se fait que spontanément ce ne soit pas le cas?
Alors, faut distinguer la peur de l'angoisse. Avoir peur de la mort, pour l'athée que je suis, en un sens, c'est idiot, puisque pour moi, la mort, c'est le néant. Le néant, c'est rien. Et donc, avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien. Ce qui est idiot. Et ça donne raison à Épicure. Quand Épicure écrivait « La mort n'est rien ni pour les vivants ni pour les morts. Elle n'est rien pour les vivants puisqu'ils sont vivants. Elle n'est rien pour les morts puisqu'ils ne sont plus. » Sauf que nous mourrons. Et ça, ce n'est pas rien. Et donc avoir peur de rien à la lettre, c'est idiot. Mais c'est aussi, en un certain sens, une définition de l'angoisse. Puisque nos psychologues distinguent justement la peur d'un objet réel, la crainte, de l'angoisse, qui est une peur sans objet, voire une peur qui porte sur le néant. Et pourquoi sommes-nous angoissés par l'idée de néant? Mais c'est que nous aimons être, nous aimons vivre. Et donc forcément, si on imagine que je ne serai plus, ça a quelque chose d'angoissant, un peu comme le vertige, qui est la peur du vide. Et en un sens, c'est normal. Et autant il est normal d'être angoissé sur son lit de mort, quoique, on verra, je crois que certains meurent plus sereinement que d'autres, mais c'est pas ça le plus important. Mais passer toute sa vie dévoré par l'angoisse à l'idée qu'on va mourir, ça me paraît fou. Et donc, anticiper le deuil, c'est-à-dire, au fond, faire le deuil de soi, de son vivant. Accepter d'être mortel, ça veut dire faire le deuil de soi, de son vivant. Et bien loin que ça empêche de vivre, ça pousse à vivre mieux parce qu'on est enfin libéré de cette peur, puisqu'il n'y a rien à craindre du néant, et même de cette angoisse absurde qui, au fond, n'a que le néant pour objet et à laquelle il serait fou de sacrifier notre existence.
Vous avez raison, André Comte-Sponville, en vous écoutant, une question me vient. Est-ce qu'on a tant peur que ça de mourir? Est-ce qu'en fait, la peur qui nous caractérise, et je parle bien de peur, mais ça peut prendre la forme de l'angoisse, c'est plutôt de rater sa vie?
Alors, il y a les deux, mais moi, ce qui me frappe beaucoup, pour ce qui me concerne, là, pour le coup, c'est que j'ai de moins en moins peur de la mort. J'aurais plus, elle se rapproche, parce qu'elle se rapproche, ouais, inévitablement, pour tout le monde, mais spécial plus à mon âge qu'au vôtre, et moins j'en ai peur. Enfin, j'ai peur de tas de choses, j'ai peur du handicap, de la sénilité, etc. Mais
de la souffrance d'une maladie.
Oui, la souffrance est aussi, mais la peur de la mort, non, vraiment, de moins en moins. Alors, encore une fois, je ne prends aucun engagement pour l'avenir. Le jour où on me dira, vous allez mourir dans 24 heures ou dans les heures qui suivent.
On verra bien, oui.
Je serai sans doute angoissé, mais c'est normal. Donc, acceptons d'être mortels, apprivoisons l'idée de la mort, comme dit Montaigne, pour apprendre à vivre mieux. Parce que la vraie sagesse, je crois que je l'évoquais un autre jour, c'est la formule de Montaigne, pour moi donc, j'aime la vie. Oui, mais si tu dis j'aime la vie et que tu n'acceptes pas la mort, c'est que tu n'aimes pas la vie.
Mais parce
puisque
que souvent,
la mort fait partie de la vie.
Voilà, parce que souvent, on oppose les deux.
C'est aimer la vie telle qu'elle est et donc mortelle. Mm. Et donc, forcément, aimer la vie, c'est accepter la mort. C'est pourquoi Platon disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Sauf que pour lui, c'était parce qu'il fantasmait la séparation de l'âme et du corps après la mort. Ce que Montaigne montre, c'est que philosopher, c'est apprendre à mourir parce que c'est apprendre à vivre. Et que pour bien vivre, il faut accepter l'idée de la mort.
Mais c'est vrai que souvent, on oppose vivre et mourir. Alors que vous rappelez bien, et d'ailleurs je le précise, André Comte-Sponville, vous avez défendu l'euthanasie, le droit à mourir dignement. Vous avez été membre du Comité consultatif national d'éthique de 2008 à 2016. Vous avez encore ces positions-là et vous défendez l'idée que la mort fait partie de la vie. On a beau tout médicaliser, vous dénoncez d'ailleurs le pan-médicalisme, c'était une de vos prises de position pendant la crise du Covid en 2020, on va quand même mourir.
Oui, mais c'est la condition humaine qui est ainsi. Alors, ce que j'appelle le gai désespoir, pour tout vous dire, j'en ai trouvé il y a quelques mois une formulation qui me ravit, donc quelques 50 ans après que j'ai forgé moi le concept, sous la plume d'Alphonse Allais. Vous savez, cet humoriste un peu oublié du tout début du XXe siècle. Alphonse Allais écrit exactement ceci. « Nous ne nous prenons pas au sérieux. Il n'y aura aucun survivant. » Et à chaque fois que je cite cette formule lors de telle ou telle de mes conférences, les gens rient ou sourient dans la salle. Ce qui est paradoxal, parce qu'en apparence, c'est une mauvaise nouvelle. On va tous crever. Oui, mais voir cette mauvaise nouvelle en face, d'abord, ça libère de tous les efforts qu'on fait pour essayer de ne pas y penser. Enfin, on voit la vérité telle qu'elle est. Et puis surtout, ça nous ramène à l'essentiel, qui n'est pas la mort, qui est la vie, évidemment. Parce que tous les vivants meurent, mais il n'y a que les vivants qui meurent. Et donc, être mortel, c'est une définition de la vie, précisément. Et donc, on ne pourra pas aimer la vie, vivre tranquillement, sereinement, joyeusement, si on n'accepte pas qu'un jour, cette vie est une fin. Et puis, il y a la grande formule de Voltaire, que j'ai mis en exergue, je crois, à l'opportunité de vivre, qui écrit à sa grande amie, la marquise du Deffand, « On aime la vie, mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon. » Cette formule m'a toujours profondément réjoui, oui, parce que, comme dit Brassens, quand tu seras mort, tu n'auras plus jamais mal aux dents. Et donc, voilà, l'idée de néant, elle a aussi quelque chose
de bon,
d'apaisant. Voilà. Au fond, la bonne nouvelle, c'est que la mort nous libérera de l'angoisse qu'elle nous inspire. Et donc voilà, donc on va tous réussir à mourir, c'est pas la peine de se prendre la tête. Vous savez, je ne sais plus quel écrivain disait, au fond, la mort, c'est le seul examen que personne n'ait jamais raté. Spinoza a dit la chose fortement dans l'éthique. Spinoza a écrit que le sage ne pense à rien moins qu'à la mort, mais sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Alors, qui pense à rien moins qu'à la mort, je trouve que Spinoza pousse le bouchon un peu loin, parce que pour penser qu'il ne faut pas penser à la mort, c'est déjà y penser malgré tout plus qu'à l'état d'autre chose. Donc moi, je pense au contraire qu'il faut penser à la mort, mais pas passer sa vie à méditer là-dessus, mais il est bien de se rappeler qu'on va mourir. Mais Spinoza a bien sûr raison de dire que la sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie.
Comment expliquez-vous, André Comte-Sponville, que, par exemple, pendant le Covid, certains n'aient pas compris votre position de trouver absurde toutes les mesures qui avaient été prises pour protéger les populations et notamment les plus âgés?
Non, je ne l'ai pas trouvé absurde. D'abord, j'ai toujours dit qu'il fallait respecter le confinement, ce que j'ai fait moi-même très strictement et à Paris en l'occurrence. Non, non, ce que j'ai dit, c'est que je craignais qu'on sacrifie l'intérêt de nos jeunes gens à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ça, effectivement, je trouvais ça choquant. D'ailleurs, on est en train d'en voir en partie les conséquences pour ce qui est de la dette publique, notamment. Parce qu'au fond, Je ne comprenais pas cette espèce de panique qui s'emparait de la population pour une maladie certes grave, et il fallait bien sûr prendre des précautions, mais enfin dont on a su très vite que le taux de létalité était inférieur à 1%. Et donc, moi, je n'avais pas peur du Covid. Il se trouve que je l'ai eu, j'étais très malade. Mais voilà.
Oui, vous avez été hospitalisé.
Oui, j'étais hospitalisé. Mais voilà, donc, je n'étais pas contre les mesures. J'ai dit qu'il fallait les respecter, parce que moi, je suis un démocrate, j'obéis aux lois de la République. Mais je trouvais que la peur était exagérée et qu'à force de vouloir protéger les anciens, on oubliait de protéger les jeunes. Oui.
Et donc la vie, c'est-à-dire vraiment l'idée d'une vie qui s'ouvre à eux, qui
oui,
est pleine de possibles.
Quand Macron disait « pour protéger les plus fragiles », il a raison. Sauf que si on ne pense qu'à la santé, pan médicaliste, les plus fragiles, c'est les plus vieux. Il n'y a pas que la santé dans la vie. En vérité, les plus fragiles, ce n'est pas les plus vieux. Moi, j'ai 73 ans maintenant. Que voulez-vous que la vie me prenne? Moi, je suis tranquille. À 73 ans, je suis certain que je ne mourrai jamais jeune. Pour vous, ce n'est pas certain du tout. Vous êtes bien plus fragile que moi, bien plus exposé que moi au risque d'une mort prématurée. Deuxième risque, le chômage. Écoutez, moi je suis à la retraite depuis des années, je suis parfaitement protégé contre le chômage. Vous, vous ne l'êtes pas. Troisième risque, le dérèglement climatique. Dans 30 ans peut-être, la vie sur Terre deviendra très difficile, mais à la limite, il n'y a que moi, je m'en fous, dans 30 ans je serai mort. Vous, vous serez encore vivante, vous voyez. Et donc à bien des égards, protéger les plus fragiles, c'est pas protéger les plus vieux, sauf en matière de santé, c'est protéger les plus jeunes. Et quand j'ai vu qu'on fermait les écoles, les lycées, les facultés pour protéger la santé des gens de ma génération, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus grave? Un étudiant qui arrête ses études, parce que beaucoup ne les ont jamais reprises, ou un vieillard de mon âge qui est atteint du Covid et qui, en gros, a une chance sur 100, 500 sur 100 après 60 ans d'en mourir. Mais moi, je trouve, et là, c'est mon côté humaniste et rationaliste, que l'éducation de nos jeunes gens est bien plus importante que la santé de nos vieillards dont je fais partie. Qu'on protège les plus fragiles, donc les plus vieux, dans une période de crise sanitaire. Oui, bien sûr, et donc, je n'ai jamais condamné le confinement en tant que tel. Mais enfin, sur la durée, que penseriez-vous d'une société dont la priorité des priorités, ça serait de protéger ses octogénaires? C'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants? Moi, je dis la priorité des priorités, c'est de protéger tout le monde, à commencer par les plus fragiles, c'est-à-dire les plus jeunes. Et j'étais choqué pendant cette période du Covid, effectivement, qu'on ait tendance à inverser la traditionnelle solidarité intergénérationnelle, qui existe depuis toujours, mais ça fait 300 000 ans, en gros, que les parents se sacrifient pour leurs enfants. Et c'est très bien comme ça. Que les grands-parents se sacrifient pour leurs petits-enfants. Et c'est très bien comme ça. Mais l'idée qu'on sacrifie nos enfants ou nos petits-enfants pour protéger notre santé de septuagénaire ou d'octogénaire, alors ça, je trouve tout à fait insupportable.
Je suis particulièrement surprise, André Comte-Sponville, parce que j'ai remarqué que depuis le début de ces entretiens, vous évoquiez beaucoup les enfants. Les vôtres, votre petite-fille qui est décédée quand elle avait 6 semaines, mais aussi question de transmission. La question de prendre soin de la jeunesse, la question aussi du gai désespoir qui peut tomber quand on a un enfant, c'est-à-dire qu'on est obligé d'espérer ou de craindre. C'est une omniprésence, en fait, dans votre discours. Mais vous n'avez jamais fait non plus de texte sur l'enfance, sur le...
Si, j'ai écrit un texte, un article qui s'appelle « Père », je crois. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Figure humaine », je crois, où il y a plusieurs chapitres sur les différents âges de la vie, l'enfance, l'adolescente, la maturité, la vieillesse. Non, mais donc ça m'importe, mais parce que simplement, c'est l'humanité. Hein. L'humanité, si elle existe toujours, c'est qu'on n'a pas arrêté de faire des enfants. Et puis c'est vrai, si vous voulez, j'en ai souvent parlé avec mes amis, on vous remet un petit corps dans les bras, hein, 2,8 kg, 3,5 kg, tout d'un coup... Vous avez une expérience d'amour que vous n'avez jamais vécue avant. On a tous été amoureux, on a eu des amis, des chagrins d'amour. Mais cet amour-là, surtout pour le tout petit qui vient de naître, forcément, c'est bouleversant. Et donc oui, ça a changé ma vie. Il se trouve que la première est morte, ça a peut-être enraciné encore plus la chose en moi. Mais et puis après, il y a eu les angoisses, parce que les autres ont eu parfois aussi quelques problèmes de santé redoutables. Donc voilà, mais simplement... Nous sommes humains de père en fils, de mère en fils, de mère en fille, de père en fille. Quoi, hein. Et donc la filiation, ça fait partie non seulement de la condition humaine, mais peut-être de ce qu'il y a de plus beau, de plus fort, de plus émouvant dans cette condition humaine. Oui. Quand Nietzsche écrit qu'un philosophe qui a des enfants s'apprête à rire, c'est une terrible condamnation de Nietzsche, évidemment. Oui. C'est le contraire qui est vrai. Au fond, un philosophe qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? C'est un peu comme un puceau qui écrit un livre sur l'amour. Il a le droit d'écrire sur l'amour, même s'il est puceau. Mais ceux qui ne sont pas puceaux diront, oui, quand même, il manque un peu une expérience. Celui qui n'a pas d'enfant peut bien sûr écrire sur la vie, mais de mon point de vue, il lui manque quand même une expérience forte. Voyez. Voilà, donc oui, ça a bouleversé ma vie, y compris tragiquement, mais surtout, ça fait partie de l'humanité. Et puis, elle fait autre chose. Moi, je trouve qu'on a une société qui protège plutôt bien ses vieillards. Moi, quand j'étais jeune, c'est les vieux qui souffraient de la misère. On parlait de la misère du troisième âge. Les jeunes, au contraire, pendant les Trente Glorieuses, ça allait plutôt de mieux en mieux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Chacun constate que les retraités vivent plutôt mieux que les actifs et que ceux qui vivent le plus mal, qui n'arrivent plus à se loger, boire, acheter, à manger, c'est les plus jeunes.
Vous avez toujours eu le meilleur, en fait, André Comte-Sponville.
Oui, les boomers, comme on dit, ont eu de la chance, tout à fait. Oui. Et donc, j'ai envie de dire qu'il s'agit maintenant de se soucier des plus jeunes, et d'autant plus que au problème économique que j'évoquais s'ajoute la question écologique, qui est une question, évidemment, extrêmement importante. Et donc, il faut prendre garde à l'avenir, parce que le gai des espoirs, c'est pas renoncer à tout projet d'avenir, c'est plutôt remplacer la pensée de ce qui ne dépend pas de nous, l'espoir et la crainte, par la pensée de ce qui dépend de nous, y compris dans le futur, le programme, le projet, la prévision. Et donc, on a besoin de prévoir l'avenir, et notamment, agissant du dérèglement climatique et plus généralement de l'écologie, nous sommes en train de préparer pour nos enfants, nos petits-enfants, un monde terriblement inconfortable, et donc l'urgence, c'est d'agir.
Vous avez parlé de filiation, André Comte-Sponville. Qu'est-ce que vous voulez laisser? Je parle de vos enfants, je parle aussi même de l'œuvre que vous avez faite. Est-ce que vous aviez une prétention à avoir du succès, à avoir une postérité? Est-ce que ça vous a intéressé? Ou est-ce qu'au contraire, justement, en tant que philosophe désespéré, c'est-à-dire sans espoir, vous ne mettiez aucune attente de ce côté-là?
Oui, mais je vous dis, le désespoir, ça ne marche pas non plus.
Oui, c'est ça. Vous êtes rendu compte de ça.
Alors, je ne prends pas de pari sur ma postérité. En vérité, je n'en sais rien. Je pense que personne n'en peut rien savoir. Mais j'avoue que ça compte pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? J'espère un pas trop mauvais souvenir. Mais aux autres, mes livres.
Non Comment seulement, ça, vous espérez de ne pas trop laisser un mauvais souvenir à vos enfants? Vous pouvez le savoir, ça, déjà.
Oui, mais d'abord, il faudra leur poser la question à eux, puis ça dépend lequel, parce que sur les trois enfants, ils n'ont pas forcément vécu la même chose. Vous savez, quand je vois ma sœur, mon frère et moi, la façon différente dont on a vécu les mêmes parents, c'est compliqué, ces histoires-là. Voilà, mais oui, c'est vrai que écrire, pour moi, ça veut dire écrire des textes qui vont durer, qui vont rester. Et j'avoue que je n'écrirai pas, je crois, si j'ai le sentiment que dans 15 jours, ça n'intéresserait plus personne. Moi, je fais beaucoup de jardinage dans ma maison de Normandie et je ne plante pratiquement que des arbres ou des arbustes, que des choses qui ont une chance de me survivre. Mais planter des fleurs qui vont mourir à l'automne prochain, non, vraiment, j'ai pas la motivation. Donc voilà, pour ce qui est du fantasme, pour moi, c'est très important l'idée que mes textes me survivent. Et est-ce que ça sera le cas? Écoutez, on verra bien, mais je ne serai plus là pour m'en inquiéter.
Vous avez parlé aussi d'amour avec pour vos enfants. Vous parlez aussi d'amour conjugal. Vous parlez souvent de l'amour. D'ailleurs, en fait, le gai désespoir, le bonheur qui n'espère pas, c'est aussi aimer la personne avec qui l'on est.
Voilà, il s'agit d'espérer un peu moins et surtout de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Voilà. Et effectivement, alors si on revient à la question de la spiritualité qu'on a déjà évoquée, si on reprend les trois vertus théologales du christianisme, la foi, l'espérance, l'amour, ou la charité comme on dit aussi, qu'est-ce qui reste de la foi? Pour l'athée, rien. Ah, sauf qu'il reste quand même ce que j'appelle la fidélité, au sens où je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs morales que nous avons reçu. Pas besoin de croire en Dieu pour être sensible au message moral des évangiles. Donc, qu'est-ce qui reste de la foi? Il reste la fidélité. Qu'est-ce qui reste de l'espérance? Au sens de l'espérance métaphysique, rien, puisque être athée, c'est penser qu'après la mort, il n'y aura rien. Il reste donc l'amour. Les trois vertus théologales, la plus importante, la seule qui m'importe vraiment, c'est évidemment l'amour. Et c'est là où, quand j'ai travaillé pour mon petit traité des grandes vertus, j'ai travailler bien sûr sur les trois vertus théologales de la tradition chrétienne, la foi, l'espérance, la charité. Et je tombe sur un texte de saint Augustin qui commente l'épître aux Corinthiens 1,13 de saint Paul, où saint Paul écrit en substance « Tout le reste passera, la charité seule ne passera pas ». Et saint Augustin se demande « Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que la foi passera? Que l'espérance passera ?» Et saint Augustin, avec le mélange de courage et de génie qu'il caractérise, répond « Oui, ça veut dire ça ». La foi passera parce que dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus lieu de croire en Dieu, puisqu'on sera en Dieu. Ce ne sera plus la foi, ce sera la vision béatifique. Et l'espérance passera parce que dans le royaume, au paradis, par définition, il n'y a plus rien à espérer. Et donc dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Eh bien, de mon point de vue d'athée fidèle, j'ai envie de dire, ben voilà, le royaume, c'est ici et maintenant. Il s'agit d'habiter cet espace à la fois matériel et spirituel, où rien n'est à croire, puisque tout est à connaître, où rien n'est à espérer, puisque tout est à faire ou à aimer. À faire pour ce qui dépend de nous, et à aimer pour ce qui n'en dépend pas. Bref, nous sommes déjà dans le royaume, l'éternité, c'est maintenant. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que, continuant à travailler sur ces questions pour me peut-être traiter des grandes vertus, je prends l'immense somme théologique de Thomas d'Aquin. Donc c'est quand même en gros 10 siècles après saint Augustin. Et Thomas d'Aquin dit la même chose. Alors il cite saint Paul lui aussi, il cite saint Augustin, dit la même chose que saint Augustin. Dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Sauf que Thomas ajoute ceci, que je n'ai jamais lu chez Augustin ni nulle part ailleurs. Thomas ajoute, d'ailleurs le Christ n'a jamais vu ni la foi ni l'espérance. Et cependant, il était d'une charité parfaite. Alors, comprenez-moi bien, je ne veux pas faire de Thomas d'Aquin l'athée que je suis, mais qu'il n'était assurément pas. Bien sûr que si Jésus, pour Thomas d'Aquin, n'a jamais eu ni la foi ni l'espérance, c'est que Jésus était Dieu. Et que Dieu n'a pas à croire en Dieu, puisqu'il est Dieu. Et que Dieu n'a rien à espérer, puisqu'on espère que ce qu'on ignore ou ce qui ne dépend pas de nous. Et que Dieu étant à la fois omniscient et tout-puissant, il n'ignore rien et tout dépend de lui. Donc d'accord, c'est parce que Jésus était Dieu qu'il n'avait ni la foi ni l'espérance. Il n'en reste pas moins que du point de vue de l'athée fidèle que je suis ou que je m'efforce d'être, ça donne un sens très singulier et singulièrement fort au titre d'un livre fameux qu'on ne lit plus guère qui s'appelait « L'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ ». Parce que si Jésus n'avait ni la foi ni l'espérance, ce qu'il s'agit d'imiter, c'est pas la foi, c'est pas l'espérance, c'est l'amour. Et c'est là où je me réconciliais en quelque chose avec, si j'ose dire, ma piété d'enfant et d'adolescent. Je ne cessais pas pour autant d'être athée. Au contraire, en un sens, je l'étais encore plus et mieux.
Mais c'est pas pareil, l'amour tel que vous le décrivez là et l'amour conjugal.
Non, l'amour conjugal, c'est l'une des parties.
En grec, même l'amour de ses enfants, d'ailleurs.
En grec, on dirait philia pour l'amour conjugal, plutôt qu'agapé, qui est l'amour de charité. Mais Thomas d'Aquin le même dit que la charité est une espèce d'amitié. Mmh. Mais vous avez raison, l'amour conjugal, c'est d'ailleurs bien plus accessible. Parce que vous savez, l'amour du prochain, il ne faut pas se raconter d'histoire.
Voilà.
Hein. C'est ça que j'ai souvent.
Moi, je veux bien imiter l'amour du prochain.
C'est un très bel idéal, mais en vérité, on en est incapable. Vous savez, Pierre Desproges a réglé la question quasi définitivement. Dans un spectacle, Desproges disait « Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. » Personnellement, disait Desproges, « je préfère moi-même. » Et donc, le prochain est très difficile à aimer. Par chance, les femmes, les hommes, surtout quand on les a choisis, sont plus faciles à aimer. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans le couple, finalement, marié ou pas, c'est pas l'important, mais dans le couple, c'est-à-dire vivre dans la durée une expérience d'amour qui va au-delà des enthousiasmes et des illusions de la passion amoureuse. Alors, j'ai rien contre la passion amoureuse, mais bon, on ne décide pas de tomber amoureux, on ne décide pas de ne l'être plus ou de l'être encore. Par contre, j'ai beaucoup pour le couple, parce que je crois que le couple est une expérience de vérité, déjà. Quand on est amoureux, au fond, est-ce qu'on aime l'autre ou est-ce qu'on aime les illusions qu'on se fait sur l'autre? Ce que Stendhal appelle la cristallisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé amoureux de quelqu'un tel qu'on le connaît, mais de quelqu'un tel qu'on l'imagine. Et donc, on se met ensemble et finalement, on découvre qu'une fois qu'on s'est débarrassé des illusions qu'on se faisait sur l'autre, il faut apprendre à vivre avec l'autre tel qu'il est. Et là, de deux choses l'une, ou bien une fois qu'on a fait vraiment connaissance, on est malheureux et donc il est légitime de se quitter, ou bien on découvre que plus on se connaît en quelque chose, plus on s'aime. Autant la passion amoureuse est l'amour d'une image, d'une illusion, dont il faudra bien se guérir. Parce que si vous épousez quelqu'un parce que vous êtes amoureuse, c'est très déraisonnable, parce que vous ne resterez pas amoureuse, justement, parce que vous allez vivre ensemble.
Mais ça, c'est presque quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, André Comte-Sponville.
Il faut en quelque chose cesser de croire à la passion amoureuse, dans l'idée que ça va durer. Encore une fois, il n'y a pas à y croire au sens où ça fait partie de la réalité, mais cesser d'espérer que la passion amoureuse va durer indéfiniment, ce qui n'arrive jamais, pour entreprendre d'aimer véritablement, d'aimer l'autre, non pas tel qu'on l'imagine ou tel qu'on le rêve, mais tel qu'il est. Alain écrit quelque part, finalement, c'est le couple qui sauvera l'esprit. Oui, parce que ce qu'il y a de mieux à vivre dans la vie spirituelle, c'est quoi? C'est la conjonction de l'amour et de la vérité. Parce que c'est facile d'aimer en racontant des histoires, c'est facile d'être lucide sans aimer. Mais être à la fois lucide et aimant, là, c'est une grande aventure spirituelle. Et donc, de ce point de vue, le couple est une aventure spirituelle.
Une dernière question, André Comte-Sponville. Vous citez tout le temps, vous avez plein de citations, Gide, Spinoza, Montaigne, Alphonse Allais, mais il y a une personne que vous n'avez pas citée dans ces entretiens et j'aimerais que vous le fassiez, c'est Hetty Hillsum.
Oui, Hetty Hillsum, bah, écoutez, c'est donc cette jeune femme juive qui est morte à Auschwitz en 1943, qui a laissé un journal bouleversant, dont on a publié d'abord des extraits sous le titre, je crois, « Une vie bouleversée ». Mais on a publié plus récemment l'intégrale. Et donc, il faut dire à nos auditeurs que, y compris pour ceux qui ont lu Une vie bouleversée, il faut vraiment acheter l'intégrale. Parce qu'on passe d'un petit livre de 200 pages à un gros livre de 900 pages, si vous voulez. Et là, comme c'était un vrai journal intime, on plonge dans une intimité bouleversante de cette jeune femme juive, mais juive non religieuse au début, hein, qui, dans les années d'occupation, et l'occupation nazie en Hollande était encore pire qu'en France, sachant qu'elle va être déportée et que, selon toute vraisemblance, elle va y mourir. En effet, elle meurt à Auschwitz. Donc, elle écrit ce journal intime, 900 pages, qui sont comme une montée vers la lumière. Et moi qui ai lu beaucoup de livres, aucun livre, jamais, ne m'a bouleversé autant que le journal intime d'Hetty Hillsum. Je suis tombé en quelque chose, un peu sottement, un peu niaisement, je l'avoue, mais amoureux de cette jeune femme qui est morte, si je compte bien, 9 ans, avant ma naissance. Parce qu'elle est bouleversante de féminité, de sensualité, d'intelligence, mais surtout, c'est une surdouée de la vie spirituelle. Une forme de mystique, mais un mystique plutôt de l'immanence, au moins en partie de l'immanence, puisqu'elle écrit au fond « J'appelle Dieu ce qu'il y a en moi de plus profond ». Alors, après, c'est une question de mots. Moi, ce qu'il y a en moi de plus profond, je n'appellerai jamais ça Dieu. Mais voilà, oui, donc cette femme me bouleverse. Je l'aime. Et puis c'est quelqu'un de simple. Il y a deux femmes qui... Il y a Simone Veil, la philosophe, et Hetty Hillsum. Ces deux femmes me fascinent. Alors, avec Simone Veil, je ne suis d'accord sur rien. C'est un génie philosophique, mais qui, pour moi, dit la vérité de la religion. Et donc, elle m'a beaucoup aidé à penser mon athéisme par différence. Avec Hetty Hillsum, je suis d'accord pratiquement sur tout. Mais elles sont très différentes parce qu'au fond, Simone Veil, c'est le triomphe de la pulsion de mort. C'est-à-dire, quand on la voit en photo, on voit qu'elle fait tout pour escamoter son corps. Elle a un grand imperméable, on ne voit pas de forme, etc. Hetty Hillsum est resplendissante de sensualité. Si vous voulez. Elle est du côté de la pulsion de vie. Alors, j'en parlais avec mon amie Nancy Houston. À l'époque, je rêvais de faire un livre sur Hetty Hillsum et Simone Veil. Nancy m'a dit, je te propose un titre, « Morte en 1943 ». Parce que Simone Veil et Hetty Hillsum sont mortes toutes les deux en 1943. C'est un livre que je n'ai jamais écrit, que je pense que je n'écrirai pas, parce que justement, j'ai plus envie de faire des études, d'écrire sur les autres. Mais je garde beaucoup de fidélité à ces deux femmes qui sont mortes, effectivement, en 1943.
Merci beaucoup, André Comte-Sponville, pour toute cette semaine d'entretien que vous nous avez accordé. Je salue aussi votre chien, votre chat, qui n'ont pas fait trop de bruit, sauf au début des entretiens. Encore merci à vous.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Patrick Muller, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Géraldine Mosna-Savoie, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.